avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, développement au Cameroun des milices d'autodéfense. Encore et toujours malheureusement, insécurité alimentaire au Sahel. Réaction au Niger suite à l'interdiction du voile intégral. La Sierra Leone tente de se reconstruire après la fin de l'épidémie Ebola. Et rubrique culture, rencontre avec la styliste Fadi Maïga. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Au Cameroun, les autorités exhortent les populations du nord du pays à s'enrôler dans les milices d'autodéfense pour lutter contre les islamistes nigérians de Boko Haram. Des groupes qui jouent un rôle croissant dans la surveillance des mouvements d'individus suspects et l'interception de kamikazes. Pour en savoir plus, Eric Manirakiza a joint Manassé Aboya Andong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala.
Depuis le changement de stratégie de la secte islamiste Boko Haram, les forces de maintien de l'ordre étaient invitées justement à associer les populations dans un concept qui avait été développé à l'époque par les autorités administratives lorsqu'elles parlaient de défense populaire. Et ces derniers temps, effectivement, le ministre de l'Administration territoriale, en convoquant les gouverneurs pour leur rencontre annuelle, a exactement inséré le processus de défense populaire dans la stratégie de contrer la variante des kamikazes utilisée ces derniers temps par la secte islamiste.
Est-ce que ces groupes d'autodéfense ou de défense ne risquent pas d'échapper au contrôle du gouvernement central?
Je pense que c'est encadré uniquement au niveau du financement de ces groupes. L'échappatoire pourrait être envisagé au cas où ce groupe venait à être armé et cela pourrait poser le problème de désarmement. Mais pour l'instant, le gouvernement se contente de financer ces groupes d'autodéfense afin d'aiguiser leur attention sur la vigilance à déployer sur le mouvement des personnes suspectes et qui pourraient être porteuses des bombes destinées à être déclenchées à côté des populations.
Est-ce que c'est une stratégie qui vous paraît efficace?
Nous sommes au cœur d'une guerre asymétrique, puisque depuis que les miliciens de Boko Haram n'attaquent plus de front les forces armées camerounaises et procèdent depuis un bon bout de temps par des attaques surprises, par l'explosion des bombes, je pense que depuis un bon bout de temps, on parvient quand même à détecter les bombes humaines, à les neutraliser, et ça a un avantage de minimiser les morts, le nombre de morts. Aujourd'hui, dans la partie nord du Cameroun, il n'y a plus d'activité. Donc, les populations n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations et sont naturellement plus intéressées à participer à ces groupes d'autodéfense qui leur permettent quand même de s'occuper et d'essayer de trouver les moyens de survie en s'impliquant aux côtés des forces de maintien de l'ordre à détecter les kamikazes, les bombes humaines. Donc, ça donnait de l'emploi de manière ponctuelle aux populations et ça rend quand même satisfaction aux autorités administratives qui trouvent des alliés susceptibles de les aider à contrer justement ces attaques venant d'un ennemi invisible, furtif, qui se cache aux frontières et attend le moment d'inattention pour frapper.
Manassé Aboya Andong, enseignant de sciences politiques à l'université de Douala. L'Afrique de l'Ouest doit gérer chaque année entre 3 et 5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du réseau de prévention des crises alimentaires sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest, l'année 2016 s'annonce encore plus sombre, malgré des campagnes agricoles tout à fait satisfaisantes. Pour tenter de comprendre ce phénomène, Modibo Dembélé a joint le rédacteur en chef du journal en ligne, maliactu.net. Écoutons Sega Diarra.
Je suis politologue et rédacteur en chef du journal en ligne maliactu.net. Aujourd'hui, on constate que l'insécurité est la source principale de l'augmentation du taux de malnutrition dans la zone sahélo-sahélienne, d'autant plus qu'au-delà du caractère d'insécurité alimentaire, les États seront appelés à diminuer quand même le budget alloué à la prévention de la sécurité alimentaire au détriment de la lutte contre le terrorisme dans la zone. Mais également, les populations se sont déplacées, donc ce qui les rend encore plus vulnérables, ce qui les prive de leur seule source de revenus, à savoir l'exploitation des terres. Aujourd'hui, malgré une croissance économique quand même constatée dans la zone sahélo-saharienne, nous constatons que l'insécurité est un frein.
Au regard du lot quotidien des sévices dans la bande sahélo-saharienne, l'aide pourra-t-elle parvenir à ceux qui en ont cruellement besoin?
L'acheminement de l'aide reste l'épineuse question liée à la lutte contre la malnutrition, parce que nous constatons qu'au-delà des camps de déplacés, les humanitaires ont du mal à accéder aux populations les plus vulnérables, parce que tout le monde ne peut pas accéder aux camps de déplacés. Donc, et l'insécurité dans la zone est un frein, parce que ces populations restent livrées à elles-mêmes et n'ont même pas accès aux services minimums. Donc, ce qui fait que le taux de personnes exposées à l'insécurité alimentaire va augmenter de façon exponentielle ces dernières années si il n'y a pas de stratégie commune de lutte contre notamment les programmistes dans la bande sahélo-sahélienne, mais aussi toutes sortes de trafics et toutes sortes de bandits armés.
Que préconisez-vous pour combattre la crise sécuritaire et la crise alimentaire qui fragilisent la vie de millions d'Africains?
Dans un premier temps, il y a urgence que les États concernés se dotent d'un outil commun pour faire face aux menaces réelles qui existent aujourd'hui dans la bande sahélo-sahélienne. Et cet outil commun passe d'abord par un outil de défense et de protection. Et nous voyons que les États concernés ont du mal à mettre en place une force inter-État pour lutter contre Boko Haram dans un premier temps, mais aussi tous les groupes islamistes qui sévissent dans le nord du Mali. Et c'est uniquement dans ce cadre-là que l'appui des forces internationales, notamment de l'ONU, peut être efficace contre toutes sortes de trafics dans la zone. Sinon, chaque action isolée ne fera que déplacer le problème du Nigeria au Cameroun, du Cameroun au Mali, et ainsi de suite, mais n'éradiquera pas le problème sans vraiment la mise en place d'un outil de coordination et d'action.
Séga Diarra, rédacteur en chef du journal en ligne maliactu.net. La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM. Direction le Niger à présent. Les membres de la CDAO ont décidé d'interdire le voile islamique intégral dans leurs pays respectifs pour lutter contre la multiplication des attentats kamikazes commis notamment par des femmes. Abdulrazak Idrissa a recueilli les réactions de quelques Nigériennes à Niamey.
Madame Al-Kassoum Nana est une sœur musulmane basée à Maradi. Avec son voile sur le visage, elle estime légitime la décision de la CEDEAO.
Par rapport à ce qui se passe dans ce monde, je comprends parfaitement. Et aujourd'hui, si je peux lui dire devant vos micros, c'est dommage que des gens ont confondu des choses pour que d'autres gens puissent aller jusqu'à prendre des décisions comme ça. Vous êtes venu dans mon foyer, vous avez vu, il n'y a rien qui règne que de l'amour. Surtout l'amour du prochain. Je comprends la CEDEAO. Maintenant, le voile, c'est les bombes, c'est la violence, c'est la mort. C'est ça le voile, en fait, maintenant. Et c'est normal ce qu'ils ont demandé. C'est vraiment normal. Mais il ne faut pas que les gens mettent tout le monde dans le même panier. Ça n'a rien à voir. En tout cas, nous, à Maradi, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on peut voir de l'extrémisme. Ça n'existe pas chez nous.
Hajia Sakina Maman est, elle, fondatrice d'une école coranique communément appelée Makaranta, ici à Niamey. Elle apprend les versets du Coran uniquement aux femmes. Sur la décision de la CEDEAO, elle est catégorique. Pour cela, elle se réfère au Coran.
Ya ayyuhan nabiyu. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أو prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit à tes femmes, tes filles et les femmes des croyants de se protéger, de porter des voiles afin qu'on les reconnaisse et qu'on ne les fasse nul grief. Et ça, c'est notre identité. Le voile, c'est notre identité. Je ne pense pas qu'un quelconque gouvernement se hasarderait à dire qu'il va interdire le voile. On a le droit de pratiquer notre religion et pas un gouvernement, pas quelqu'un même qui est au-dessus du gouvernement, ne peut pas nous interdire de porter le voile. Oui, pour la sécurité, mais quelle sécurité? Si moi on me demanderait mon avis, je dirais que ce n'est même pas une façon de sécuriser un pays. Pourquoi ne pas invoquer Allah pour avoir cette sécurité-là? Parce qu'il est le seul qui peut sécuriser.
Pour le moment, au Niger, c'est seulement dans la région de Diffa en proie aux attaques de la secte islamiste Boko Haram depuis le mois de février 2015 que le port du voile a été interdit par les autorités régionales. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Sierra Leone tente de reprendre une vie normale 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola dans leur pays. Ils restent confrontés à de nombreux défis. Notre envoyée spéciale Nina De Vries s'est rendue à Freetown. Écoutons son reportage présenté par Michel Joseph.
En ce début d'année, Dadi Hassan Camara est reconnaissant d'avoir ses enfants avec lui. Il fait partie des 4000 personnes à avoir survécu à l'Ebola en Sierra Leone. 9 membres de sa famille, y compris un de ses fils, n'ont pas eu cette chance-là. Depuis qu'il s'est rétabli, Dadi Hassan Camara n'a pas trouvé d'emploi. Il a contracté l'Ebola au contact de sa mère au moment où le virus de la fièvre hémorragique se propageait à travers le pays.
When I was in the treatment center,
Lorsque j'étais dans le centre de traitement, j'étais furieux au sujet de la situation. Même lorsque les médecins m'appelaient pour me donner les médicaments, je les ignorais et par moments, ils avaient même peur de moi.
L'épidémie d'Ebola, qui a éclaté en décembre 2014 en Guinée, a fait plus de 11 000 morts. Après la Sierra Leone et la Guinée, le Libéria devrait être déclaré libre de la fièvre hémorragique ce mois-ci. Le souvenir de l'épidémie reste encore vivace dans l'esprit de ceux qui étaient en ligne de front de la lutte contre le virus. Saliou Diallo est du nombre. Chargé de la mobilisation pour l'UNICEF, il a fait du porte-à-porte pour informer les gens sur les méthodes de protection contre l'Ebola. Saliou Diallo est heureux d'entamer 2016 sans l'Ebola, mais il redoute une résurgence de la maladie, d'autant plus que les Sierra Leonais, en gens très affectueux, aime bien le contact.
Lack of hugging, handshaking.
L'interdiction des accolades, des poignées de main, nous ne voulons pas qu'ils abandonnent ces habitudes. Mais on n'y peut rien. Vous voyez, les gens se donnaient des claques dans le dos, se serraient la main, dansaient ensemble. C'est effrayant, tout cela.
Dadi Hassan Camara, lui, s'inquiète de l'avenir, ne sachant pas trop comment payer le loyer ou nourrir sa famille. Certes, il reçoit l'aide de quelques amis, mais il a conscience que cela ne durera pas indéfiniment. En dépit de ces sombres perspectives, Dadi Hassan Camara veut rester positif, espérant que 2016 sera une année plus clémente.
Fadi Maïga est une jeune malienne de 22 ans qui, après l'obtention de son bac au Mali, est partie étudier la mode et le stylisme au collège La Salle de Tunis, en Tunisie. Ses talents ont été reconnus, grâce au premier festival du Bazin, le Festi Bazin, qui a eu lieu à Bamako. Elle se dit un exemple de réussite pour les jeunes de son âge et veut aider à la promotion des droits de la petite fille et de la femme au Mali. Au micro de Kadiatou Traoré, on écoute la jeune styliste malienne Fadi Maïga.
J'ai toujours aimé tout ce qui est artistique, mais j'ai toujours eu une préférence pour la mode. Donc j'ai essayé de suivre ma voie en étudiant dans la chose. J'ai fait un bac littéraire. Après ça, je suis allée en Tunisie. J'ai fait ma formation à Collège La Salle, Tunis. C'est comme ça que je suis devenue styliste. J'avais des idées claires, en fait. Mon entendement par rapport à la mode, les changements que je voulais apporter. Donc j'ai préféré rentrer pour exercer mon métier.
Vous avez lancé votre marque qui s'appelle Borchini. Ça veut dire quoi?
Borchini, c'est Soreille, qui est ma langue paternelle. Ça veut dire noblesse en Soreille. C'est une vision. Je l'ai depuis étudiant, mais j'ai vraiment commencé à travailler sur ça depuis 2 ans. C'est vrai que j'utilise beaucoup le bazin. J'ai juste essayé d'apporter une touche de modernité à ça pour voir jusqu'où je peux aller avec. D'ailleurs, quand je défile à l'extérieur, on me dit que je tutoie le bazin. Sinon, à part ça, je ne m'interdis aucune matière. Je touche à tout, que ce soit du wax, du boulon, tout quoi.
On vous a vu pendant la première et la deuxième édition du Festi Bazin. Et nous avons remarqué que vous avez des modèles vraiment originaux, la broderie sur le bassin teint ou autre. D'où est-ce que vous puisez cette inspiration?
Je peux dire que ça vient de divers horizons, dans le sens où moi je me considère citoyenne du monde. Mon inspiration, je le puise surtout aussi dans le social que nous vivons tous les jours. Lors du coup d'État, par exemple, ça m'a sorti lors de la première édition du Festival Bazin. Je suis allée sur le Vergène Rouge pour montrer le symbole de la patrie. Il y avait tout ce qui se passait au nord. Disons que je suis inspirée parce que je vis. J'essaye de refléter un peu ce métissage dans lequel je me retrouve.
Vous avez ouvert une agence de mannequinat. Qu'en est-il exactement?
Oui, j'ai une agence de mannequinat. Le but, en fait, c'est plus pour qu'ils aillent aussi à l'échelle internationale. Parce que nous recevons des mannequins ici. Donc, je me dis que de la même manière que nous partons défiler dans les autres pays et tout, j'aimerais que nos mannequins puissent aussi aller défiler dans tous ces pays et que nous émergeons ensemble parce qu'il y a une seule mode, en fait. Sans mannequin, il n'y a pas de défilé.
Vous êtes jeune styliste, vous êtes une femme. Alors, qu'entendez-vous faire pour promouvoir la petite fille, la femme au Mali, pour donner beaucoup plus de voix à la femme malienne?
D'être déjà un exemple pour certaines personnes, certaines jeunes filles ou même garçons de mon âge ou mes petits frères et sœurs, d'encadrer plus ou moins souvent les gens qui m'approchent, d'être ouverte et utile à la génération qui peut me suivre. Je n'ai pas d'autre choix que de faire plus que d'avoir des ambitions plus grandes et plus professionnelles. Je préfère faire cas de concret.
La jeune styliste Fadi Maïga. He points stand up. The boy's back. Yes, and easy's back. Dachle jump, dachle party, dachle party. Yeah, so song talk for paddle, drink of gare. Can it miss a gimmick? What's for my one dinga jare? In the little hongare, reggae, la finica, the kitchen jale, yalla nama, yalla bal. In the nappy savara, hip hop hal, damn. Yangi waru gale, yangi sale. We make death to my hum, TV, yes, mugi way bull pale. But I'm new holly, I'm newly gay, the dance and dolly. I'm new talk to bop, can be reggae, bull the body. Snitch level of the snitch, man. Bitch level of the bitch. Same hella, yo, boy, focus and posh when you do the hutch. Mail in your joma, balanga nanda, saraka roima. Busu bash the bitch, join me, burn up, people take for hoima. Du Super Taylor, le tang et job and easy railer. Full my rank war, da mein host du fist favor. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Michel Joseph. À la console, Martine Curcias. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec l'artiste sénégalais Nyx et son Boulma Méré, tiré de son premier album exclusivement en Wolof. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Easy jump the man, do I use the boy and all the man? Rap boy, hold your boy, solid boy bang. The rap never got what I've got in hand, man. Shut the fuck up, boy, think I'm buying you job. No don't you had your gal and your mail and the job. Okay.
Shorty, Kanyu, Jere, Danju, Kimoy Black, Chris Mogo, the new Rajo Alpha Jude, Dodo Hamlu Jadu, Nerle Jise Yuhu, yes, I'm going in, Dimene, merci beaucoup, Dimene Jemma Gondi, but Dila Fen, Sulay my faith, Menu my death, Tech Jirel, Sulay my faith. I'm just having fun, man. We work in the rap all of moral. Bring the hook. Hey, dear, for hustler, boy, bun my man. Yeah, good night, you game, big boy, when soon my way.